Bonjour, bonjour, vous écoutez The Journal, avec moi Mathilde au micro et Anne à la technique. Vous êtes prêts? Alors voici le programme d'aujourd'hui. Au sommaire, rencontre avec l'équipage de la frégate furtive Geprat et quelques mots sur la commémoration du 11 novembre à Barcelone. L'ASS Badminton nous annonce ses projets. Et pour finir, l'écrivain et dessinateur Joël Alessandra nous raconte tout sur son univers. Comme toujours, vous aurez droit aussi à de la bonne musique avec Angèle, Big Flo et Oli, Vidéo Club et le dernier single de Patrick Bruel. Toute l'info est dans The Journal. Et c'est dans un instant. Commençons par la frégate furtive. Le dimanche 11 novembre ont été célébrés les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. À cet effet, j'ai été invitée sur la frégate furtive Geprat. J'ai eu la chance de rencontrer son commandant et l'enseigne de vaisseau Alexandra Adams. Il y avait aussi le consul. Retrouvons-les au sujet de la commémoration de l'armistice.
Alors nous venons ici d'abord pour célébrer le 11 novembre avec la communauté française et aussi parce que Barcelone est un port très prisé par les marins français, à la fois des paysans et l'occasion de décompresser entre deux périodes d'entraînement à la mer.
Pourquoi le 11 novembre est une date importante pour vous ?
Alors le 11 novembre, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. C'est une guerre qui a eu énormément de conséquences, aussi bien d'un point de vue historique que d'un point de vue sociologique en France. On célèbre 1,4 million de soldats français, qui étaient des citoyens français, morts pour la France. Et je pense que vu la quantité et vu l'engagement qu'ils ont eu, il me paraît important, 100 ans après, de toujours les avoir en mémoire et de souvenir du sacrifice qu'ils ont fait, qui nous permet aujourd'hui de vivre au sein de notre pays en toute liberté.
Avez-vous une phrase à dire à tous ces soldats s'ils étaient encore là ?
Tout simplement merci, merci de votre engagement et j'espère pouvoir porter mon service au sein de mon pays aussi haut que eux l'ont fait.
Pourquoi célèbre-t-on aussi l'armistice à Barcelone ?
Eh bien à Barcelone, il y a une communauté française assez importante et ce matin nous avons vu sur le cimetière de Montjuïc une stèle, un monument aux morts comme il y a dans tous les villages français avec un nombre impressionnant de citoyens français qui se sont engagés dans les armées françaises et qui ont trouvé la mort sur les théâtres d'opération et les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. C'était l'occasion avec la communauté française d'évoquer leurs souvenirs, de s'engager, puis de transmettre aussi à la jeune génération leur sacrifice et notre engagement.
Pourquoi le 11 novembre est une date importante pour vous ?
Pour moi, le 11 novembre, c'est un rappel à la nation, comme quoi il y avait des hommes qui sont morts pour eux. Et actuellement, si la France, on est tranquille et qu'on vit dans un monde de paix, c'est grâce à eux. Et c'est important pour moi le 11 novembre parce qu'on se rapproche de l'histoire, qu'on n'oublie pas, on ne doit pas l'oublier. Et on doit se rappeler qu'il y a des hommes qui ont versé leur sang et que nous, même actuellement, on serait capable de le faire pour notre nation.
Avez-vous une phrase à dire à tous ces soldats s'ils étaient encore là ?
Merci.
Pourquoi célèbre-t-on aussi l'armistice à Barcelone ?
Pour moi, si la FLF Geprat est là à Barcelone pour célébrer le 11 novembre, c'est également pour, comme je vous l'ai dit précédemment, le 11 novembre, ça permet de voir dans le passé. Le fêter à Barcelone, c'est pour voir dans l'avenir et voir un peu cela comme une union de toute l'Europe face aux guerres qui ont fait saigner toute l'Europe.
Pourquoi le 11 novembre est une date importante pour vous ?
Le 11 novembre, c'est une date importante, pas simplement pour moi, mais pour la France, pour l'Europe en général. C'est un épisode, c'est un moment fondateur pour l'histoire de nos nations, pour l'histoire de l'Europe, et puis pour chacune de nos familles, parce que dans toutes nos familles, on a eu des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui nous racontaient ce qui s'était passé pendant la guerre, comment ils l'avaient vécu. On a tous dans nos familles des exemples de personnes qui sont mortes, qui sont allées se battre sur le front. Et donc c'est fondamental de se souvenir de ces personnes qui ont donné leur vie pour que l'on reste libre.
Avez-vous une phrase à dire à tous ces soldats s'ils étaient encore là ?
Merci, évidemment. Ces soldats, ils étaient grands, ils n'aimaient pas la grandiloquence, souvent, on parle souvent de la grande guerre, mais cette guerre, elle était surtout grande par sa démesure. Et en même temps, pourtant, ces soldats, ils étaient grands par leur dignité, par leur abnégation, par leur sens du sacrifice, et pour toutes ces raisons, parce qu'ils ont voulu que leurs enfants puissent rester libres et vivre en paix, oui, il faut les remercier.
Pourquoi célèbre-t-on aussi l'armistice à Barcelone ?
Parce que on ne le sait pas peut-être suffisamment, mais il y a eu beaucoup de Français de Barcelone ou de volontaires espagnols, catalans, qui sont partis se battre en France, dans la Somme, à Verdun, sur le chemin des Dames. Et donc, ils ont voulu donner leur vie, alors même qu'ils n'habitaient pas en France, pour que l'Europe puisse rester libre, justement, comme je le disais tout à l'heure.
J'ai saisi l'occasion pour interviewer le commandant de la Guéprat. Écoutons-le. Vous êtes commandant de la frégate furtive Guéprat. Mais qu'est-ce qu'une frégate furtive ?
C'est une frégate d'environ 120 mètres de long, qui compte 150 personnes et qui a par son design la particularité d'être difficilement détectable avec les radars embarqués sur les bateaux modernes. Sa forme un petit peu particulière la rend très discrète et ça la permet de s'approcher des côtes, notamment pour des missions d'observation ou pour la mise en œuvre de forces spéciales.
Quels sont les différents métiers que nous trouvons à bord d'un bateau ?
Alors on a environ une trentaine de métiers différents à bord qui vont du boulanger au matelot manœuvrier en passant par le mécanicien qui s'occupe des moteurs, le timonier qui s'occupe de la direction du bord ou le détecteur qui lui s'occupe des radars. C'est une des particularités de la marine, c'est qu'on propose énormément de métiers du fusilier marin commando au mécanicien en passant par le pilote d'hélicoptère ou d'avion embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle.
Comment devient-on commandant d'une frégate furtive ? Est-ce difficile ?
Alors c'est un processus un petit peu sélectif, c'est sûr, parce qu'avant de diriger les hommes, il faut savoir faire ce qu'ils font. Donc tous les commandants ont un parcours un petit peu particulier, mais d'abord, eh bien, on commence par être chef d'un service, grosso modo une quinzaine de personnes. Ensuite, on est ce qu'on appelle commandant adjoint, c'est-à-dire que on encadre plusieurs services. On passe souvent par un passage en tant que commandant en second, c'est-à-dire qu'on est la doublure du commandant et on apprend à son contact pas mal de choses. Et puis, à la fin, on réussit à être commandant d'un bateau et c'est un moment extraordinaire. C'est un petit peu l'objectif d'une carrière quand on s'engage.
Comment donneriez-vous envie, en une phrase, à un collégien d'exercer votre métier ?
Voir toutes les mers du monde, participer au sein d'un équipage à des opérations exaltantes et défendre son pays.
Voici Alexandra Adams qui nous parle de son métier dans la marine. Bonjour, quel métier exercez-vous sur le bateau ?
Alors bonjour, actuellement je suis chef de service, donc je gère des hommes, une trentaine de personnes et du matériel.
Qu'est-ce qui vous a motivé à exercer ce métier dans la marine ?
Alors moi j'ai une famille qui est pas mal dans l'institution militaire, j'ai eu mon père qui était pilote dans l'armée de l'air et mon grand-père qui était général médecin des armées et donc forcément dans la famille il y a une grande influence. En revanche, il n'y a eu personne qui était marin. J'ai voulu être dans la marine parce que ce qui m'a attiré, c'était partir loin, longtemps et en équipage. Et l'esprit d'équipage est prégnant et important pour moi. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être dans la marine.
Avez-vous eu des difficultés en tant que femme à parvenir à exercer ce métier ?
Non, je sais que les temps changent, les mentalités changent également. Et je pense qu'il y a les premières femmes à rentrer dans les armées en général ont vécu quelques difficultés. Actuellement, moi j'en ressens pas parce que je suis jugée comme un individu, comme un militaire, comme un marin avant tout et non comme un personnel féminin.
Y a-t-il des métiers réservés ou interdits aux femmes sur le bateau de la marine ?
Non, il n'y en a pas.
Quels sont vos hobbies ? Pouvez-vous les exercer facilement ?
Alors moi mes hobbies, je fais de l'escalade, je fais énormément de sport, je cours beaucoup. Quand on part longtemps en mer, je vous avoue que c'est assez compliqué de courir. En revanche, on arrive toujours à faire un peu de muscu, à s'entretenir physiquement, ce qui est important. Le marin doit rester un militaire et continuer à s'exercer.
C'est plutôt déplacé et frustrant.
c'était Angèle avec son titre « Jalousie ». Place à la deuxième interview qui parle du badminton. Lundi 3 décembre, j'ai rencontré Madame Vion, prof de sport et de badminton. Elle nous informe les projets à venir du badminton. Comme c'était à l'entraînement, Tess et Mathilde ont aussi répondu aux questions. Écoutons-les. Bonjour, quels sont les projets à venir pour le badminton ?
Bonjour, alors pour le badminton, on a cette année un tournoi à Porto qui se déroulera au mois de mars. La péninsule ibérique, tous les lycées français de la péninsule ibérique, et on a invité cette année Moscou, hein, une équipe de Moscou. Donc voilà, c'est un tournoi qui va se présenter pour les 4e, 3e, avec deux joueurs filles, deux joueurs garçons, et un arbitre, coach, qui sera avec nous aussi, hein, qui peut être parfois joueur et parfois pour être arbitre. Hein. Voilà.
Pourquoi as-tu choisi badminton comme activité extrascolaire ?
L'année dernière, on avait fait badminton avec la classe et ça m'avait plu. Et comme j'aime bien le tennis, je me suis dit pourquoi pas faire du badminton aussi. Et donc je me suis inscrite au badminton.
Bah, ça fait déjà un an que je fais du badminton. Je l'ai déjà fait en 5e et ça m'a beaucoup plu. Et donc du coup, j'ai voulu en faire parce que ça m'avait plu.
Ok, merci.
Big Flo et Oli, tu connais, non ? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai, et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Bonjour, combien de temps mettez-vous ? C'était Big Flo et Oli avec leur single « Plus tard ». Et pour finir, nous retrouvons Joël Alexandra qui a accepté de répondre à mes questions. Joël Alexandra est un écrivain et dessinateur français qui a écrit plusieurs BD, tels que Lady Whisky, Petit-fils d'Algérie ou son dernier livre « Errance ». Il s'inspire beaucoup de l'Afrique car il visite souvent ce pays. Et je remercie Karine Martin qui m'a permis de rencontrer Joël Alexandra. Place aux questions. Bonjour, combien de temps mettez-vous en moyenne pour illustrer vos BD et vos livres ?
Bonjour, alors en fait ça dépend du type d'ouvrage. Il y a plusieurs types d'ouvrages. Alors moi je suis auteur de bande dessinée et de carnet de voyage. Donc je fais les deux, même si dans mes bandes dessinées, mes romans graphiques, comme on dit aujourd'hui, j'utilise beaucoup le carnet de voyage. C'est-à-dire que je dessine dans les lieux véritablement où l'histoire se passe. Je vais où l'histoire se passe et je dessine les lieux. C'est pour ça que c'est assez crédible dans mes histoires au niveau graphique. C'est-à-dire qu'on retrouve les images dedans. Ça dépend. Alors sur les carnets de voyage, par exemple, le temps est difficile à quantifier parce que, par exemple, sur le dernier ouvrage qui s'appelle Abyssinie, si je répondais directement à la question, je dirais ça m'a pris 25 ans pour faire le livre. C'est long pour faire un livre. Mais en même temps, c'est un recueil de dessins, de photos, de témoignages que j'accumule depuis 20 ou 25 ans que je vais dans la Corne de l'Afrique, puisque Abyssinie parle de cette région du monde, Corne de l'Afrique, qui est un petit peu la Somalie, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée, enfin toute cette partie-là sur la mer Rouge. Et donc je dirais ça peut prendre 25 ans. Après, en moyenne, pour faire un livre, que ce soit du roman graphique ou du carnet de voyage, en général je mets entre 4 et 6 mois pour faire un livre.
Comment vous est venue l'envie de faire du dessin et de l'écriture ?
Alors j'ai pas décrété un jour que j'allais faire ce métier, en fait. C'est venu d'une manière tout à fait naturelle. Je ne me suis jamais posé la question de savoir quel métier je ferais plus tard. Vraiment, j'ai toujours su d'une manière inconsciente ou que ce serait ça, que je ferais du dessin. Alors je ne savais pas quand j'étais petit quel type de dessin je ferais, mais déjà quand j'avais 5, 6, 7 ans, je faisais des petites bandes dessinées dans mon coin, donc inconsciemment je pense que déjà c'était quelque chose que j'allais faire plus tard. Et puis j'ai fait une scolarité tout à fait normale, et puis j'ai passé un concours pour entrer dans une école d'art appliqué qui s'appelle l'école Boulle à Paris. Mais j'ai fait tout ça très naturellement, ça m'a posé aucun problème. J'ai pas préparé, ça s'est fait tout naturellement. Et j'ai eu un diplôme d'architecture d'intérieur, donc je suis architecte d'intérieur, mais j'ai jamais fait ce métier. J'ai toujours fait de la bande dessinée, de l'illustration, du carnet de voyage, etc. Donc tout s'est fait naturellement.
Pouvez-vous nous résumer votre dernier ouvrage en quelques phrases ?
Alors, mon dernier ouvrage, c'est celui dont on vient de parler, c'est Abyssinie. Le résumé en quelques phrases, simplement, je suis parti d'une phrase de Blaise Cendrars qui dit « Quand on aime, il faut partir ». Ça, c'est une phrase que vous devez connaître. Et le prétexte à cumuler et à présenter tout ce matériel que j'ai dans mes cartons depuis 20-25 ans, c'était de faire une espèce de fil rouge où, à partir de cette phrase de Blaise Cendrars, je laisse mon amoureuse en Europe et je la quitte parce que je l'aime. C'est bizarre, hein, c'est très... je la quitte parce que je l'aime, j'ai besoin de partir. Mais je garde un contact avec elle et tout au long du livre, je lui écris, donc c'est une relation très épistolaire, je lui écris mes sensations de voyage et je lui envoie des photos, des dessins, des illustrations. Donc c'est un petit peu ça qui ponctue le livre. Et c'est, pour résumer un livre comme ça, c'est simplement une grande promenade à travers l'Abyssinie, à travers cette corne de l'Afrique que j'affectionne tant. En ponctuant par des lettres, des dessins, des photos et aussi des témoignages et des extraits de textes de ces grands écrivains voyageurs de cette région comme Henri de Montfred, Kessel, Arthur Rimbaud qui a arrêté la poésie très tôt mais qui a continué à écrire notamment les lettres d'Abyssinie, les lettres du Harar qu'il écrivait à sa sœur et à sa mère et qui sont des témoignages assez poignants de sa vie sur place. Donc le livre est ponctué de tout ça et c'est une véritable traversée de l'Abyssinie à pied, en voiture, à travers les paysages, les coutumes, les gens rencontrés et les langues.
C'est malheureusement la fin de cette émission. Je vous retrouve le vendredi 25 janvier pour un nouveau The Journal. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi m'écouter sur www.radiolfb.net. On se quitte avec le titre Tout recommencer, interprété par Patrick Bruel. Ciao tout le monde. Et bonnes vacances.
À ma place, à ma place. Qu'est-ce que tu ferais que je ne ferais pas de surface en surface? J'en ai loupé des buts, mais j'ai marqué parfois, ça dépend, ça dépasse. Et puis ça disparaît, un peu comme toi et moi, de guerre lasse en guerre lasse. Quand est-ce que tu reviens? J'ai oublié, je crois. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Les jours s'allongent et moi je disparais. À ta place, j'essaierai de comprendre pourquoi l'amour est là, de Caribe dans Scylla. J'ai perdu les syllabes et je m'ennuie de toi, il n'y a plus que l'espace. Entre toi et le monde, entre le monde et moi, j'ai troqué tous mes as. J'ai prié le bon Dieu pour qu'il